Il est temps à présent de retrouver la seconde partie de l'entretien avec Jean Mouly, architecte, ingénieur et enseignant notamment, qui évoque des moments de l'histoire de France dans les pas des colporteurs qui traversaient les Alpes de Haute-Provence, le Haut-Var et toute la France, mais en particulier notre région. Seconde et dernière partie donc.
Un seul pont qui tenait, pour une bonne raison, c'est parce qu'il était engravé dans deux falaises, c'est le pont de Quinçon. Alors on verra pourquoi, du coup, la route de Quinçon a eu ce succès.
Quel était le sujet, un péage ?
Péage célèbre, on va peut-être en parler. Parce que quand même, c'est assez incroyable pour qu'un mulet ou une poule passe sur le pont de Quinçon, ça soit signé à Versailles par la grande famille de Maurepas, le roi étant en son conseil. C'est quelque chose, là aussi, qui n'est pas très connu. Donc, il part d'Aiguines. Il va aux Salles, donc ça monte déjà pas mal. Il passe à Bauduin, et comme il n'y a pas de lac de Bauduin, il peut monter directement à Boudinard. De Boudinard, il passe au sud-est d'Artignos. Il monte à une ferme qui est au-dessus de Quinçon, une ferme de Templiers qui s'appelle Saint-Vincent, et puis il descend sur Montmeillan. Donc voilà déjà un trajet géographiquement assez animé, physiquement dur, et puis avec, comme je disais, le gros passage du Verdon. Alors ça, maintenant, ça c'est la géographie. Alors, si on veut se plonger dans l'histoire, eh bien, sur l'histoire, c'est incroyable. Il va traverser des siècles d'histoire sur ces parcours de 30 km. Alors, là encore, il ferait des livres. J'ai non simplement, première chose, il rencontre la préhistoire. Et la fameuse grotte de Bolinard, et la grotte du capitaine dans les Basses-Gorges. Il y a des restes aux Salles, il y a des restes au bord du Verdon. Déjà, première chose. La deuxième chose, un des éléments très forts sur la Provence, il va rencontrer deux prieurés de deux monastères différents, le prieuré de Lérin qui est à Sainte-Croix, et surtout entre les Salles et Bauduin, le prieuré de Saint-Victor. Alors les prieurés, ça date, c'est le début de la chrétienté en Provence, et ça, peu de gens le savent, c'est le grand moment de la chrétienté en France, où on fonde Saint-Honorat aux îles Lérin, Saint-Cassien et Victor, les premiers monastères avec les gens qui viennent de Palestine, et des monastères tellement célèbres, qui vont donner Sainte-Maxime et Sainte-Faust comme évêques de Riez, et qui, pour s'étendre, vont commencer à avoir des propriétés le long des routes de Transhumance, le long des routes d'Essel, et vont venir le long du Verdon. Et comme ils ont la bonne technique, surtout la façon de travailler en permanence, c'est eux qui vont traiter ce qu'on ne connaît pas, c'est tous les marécages qui sont le long du Verdon, parce que quand le Verdon inonde, il laisse de l'eau, ça donne des fièvres, les gens ne sont pas assez nombreux pour traiter ça, et tout le long, par exemple, de Sainte-Croix-de-Bauduin, même dans le livre de Lucette Poncin, on voit des photos aériennes qui en gardent la trace. C'est extraordinaire, des parcelles droites, et c'est les moines de Lérin qui ont fait ça. Donc, ils rencontrent les moines de Lérin, ils rencontrent le résultat des Templiers du XIVe siècle, ils rencontrent juste un peu avant, à Saint-Vincent, les restes des Templiers, puisque les Templiers vont avoir ce qu'on avait donné d'abord aux moines, les nobles de la région vont donner sur tout ça à l'ordre du temple. Par exemple, Blacas, le seigneur de Moustier, va donner tous ses pâturages aux Templiers de Saint-Morin. Les Templiers de Saint-Morin, une ferme, Saint-Vincent. Alors, ils rencontrent d'autres choses d'histoire qu'ils ne connaissaient pas, puisque ça s'est passé après, et c'est les chambrettes des Salles. Les chambrettes, c'est un nom très classique dans notre région, même s'il est inconnu. C'est les lieux de réunion des hommes. Du temps où il y avait des confréries dans les villages, les hommes se réunissaient entre eux, avaient l'habitude de se réunir, et puis ils se réunissaient dans la pièce de l'un ou l'autre, et si possible toujours la même. On appelait ça des chambrettes. Et au moment de la Révolution, et un peu avant, déjà, c'était devenu des lieux de contestation, et au moment de la Révolution, c'est devenu vraiment des lieux révolutionnaires, c'est devenu des clubs. Il y a à Quinçon, par exemple, que je cite souvent, il y avait 4 clubs révolutionnaires, 3 clubs d'hommes et 1 club de femmes.
Pour combien d'habitants, ça, pour
quoi ? Quinçon devait y avoir 1100 habitants. C'est tombé à un moment à 180 habitants. Maintenant, ça doit être 350-400. Donc, ils rencontrent ces chambrettes révolutionnaires, vont agir, c'est la seule région en France qui va le faire, contre le coup d'État de Napoléon III. Bon, la fameuse révolte, c'est la Haute-Provence, où on va prendre la préfecture de Digne, c'est un peu le sud, puis la dernière bataille, ça sera à Ops, et là, les gens de Bauduin et des Salles sont en première ligne. Il y en a beaucoup qui vont être déportés en Algérie ou se retrouver en prison. Alors il y a un deuxième lieu, c'est une réflexion intéressante, un deuxième lieu en France qui a fait la même révolution, c'est Clamecy. Et Clamecy, c'est le lieu des bateliers, notamment du flottage du bois, donc des ouvriers qui avaient l'habitude de s'organiser.
C'est quel endroit ?
Et Clamecy, c'est dans l'Yonne. dans l'Yonne. Donc là, c'était la deuxième révolte. Et puis, si on continue sur l'histoire, qu'il n'a pas connu Émieux, mais c'était plus tard, il passe exactement dans les fermes où était le maquis Vallier, qui en 43-44 s'est opposé aux Allemands. Et puis on pourrait dire aujourd'hui qu'il rencontrerait quelques milliers de touristes qui l'embêteraient peut-être beaucoup, mais bon, voilà.
Qui se baladerait l'hiver, plutôt.
Voilà, il se promènerait l'hiver, exactement. Encore que pour le colporteur, l'hiver, c'était pas la bonne saison, généralement.
Alors tu le disais, les gens vivaient dans une grande pauvreté, tout ça concernait toute la France, même dans les villes.
Alors la pauvreté, c'était partout. Il y a des textes de Vauban que je cite souvent, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et qui dit au roi, mais c'est épouvantable, il y a des textes, même Fénelon qui dit, sire, votre royaume n'est plus qu'un hôpital. Vauban disait, il n'y a pas une famille sur 10 en France qui peut dire qu'elle peut vivre à peu près tranquillement. À travers toutes ces pérégrinations pour les fortifications, Vauban faisait à peu près 2000 à 3000 km par an à travers la France. Alors il allait de Dunkerque à Toulon, il allait sur les Pyrénées, il repartait à Neuf-Brisard et en permanence. Et alors il a, comme il était passionné de ce qui se passait des gens, partout où il passait, il prenait des notes. Et c'est comme ça qu'il a fait le premier traité de sociologie et le travail sur la dîme notamment, en regardant quelle était la pauvreté de la France et en cherchant toujours... Ça, j'aimerais bien qu'on ait les mêmes politiques, en cherchant toujours face à ces problèmes, quelle était la solution.
Il avait l'oreille du roi, en plus.
Voilà, il avait l'oreille du roi. C'était la seule personne qui pouvait écrire directement au roi. Alors que c'était même pas un aristocrate, c'était un petit noble du Morvan. Il y a une définition de Saint-Simon étonnante. Oh ben les 10 lignes. Alors là, c'est pauvre, comme il disait, un pauvre gentilhomme du Morvan qui avait l'air d'une grande brutalité et qui en fait était d'une douceur et d'une affabilité extrême, toujours soucieux du bien. Et Vauban, d'ailleurs, disait chaque fois qu'il fait ses voyages, quand il voit un champ, il pense à ce qu'on pourrait faire pousser, quand il voit une rivière, quel bateau on pourrait faire passer, en permanence au service du roi, mais surtout au service de l'État. Et le rare personnage à s'être prononcé contre le bannissement des protestants. Quand on a cassé l'édit de Nantes, les protestants, on a perdu 200 ou 300 000 artisans ou de gens intéressants. Vauban a été le très rare personnage de haut niveau à écrire au roi qui s'opposait à ça. Alors ça nous entraîne peut-être un peu loin, mais non. Peut-être que puisqu'on parlait de Versailles, on pourrait peut-être parler du péage de Quinçon. Alors le péage de Quinçon, alors là, ça c'est le grand étonnement. Le péage de Quinçon, donc comme c'était un passage obligé, qui explique d'ailleurs pourquoi Montmeillon, quand Émieux allait à Montmeillon, Montmeillon était une des grandes auberges, parce que ça sortait de la route importante qui était de Quinçon, où juste après le péage, on commençait à souffler avant de plonger vers Toulon, et ça regroupait la route un peu défaillance qui allait de Moustier à Grasse, avec un embranchement vers le sud, vers Barjols et à Montmeillon. Donc Montmeillon était la grande auberge, à tel point qu'il y avait même un casino. Comme il y avait des tissus dans la région, il y avait des chapeliers, il y avait des tailleurs, il y avait des muletiers, il y avait des épiciers, il y avait les amandes. Mais les gens, le seul commerce, c'était ça, c'était un peu la clouterie, c'était un peu les tissus, l'huile du midi, et puis aussi quand même, j'oubliais la foire de Beaucaire, qui était les plus grandes foires d'Europe, de Beaucaire remontait tous les produits d'Orient. Donc toutes les épices, de l'huile, des cadeaux, alors ça transitait, c'était la grande richesse des foires de Beaucaire.
Lorsque les Romains étaient ici, on ne servait pas de grenier à l'Italie. Ça a été perdu, ça.
Il y a eu un peu de vigne et puis il y a eu du blé sur les plateaux. Bon, d'abord, les propriétaires abandonnées. Quand on voit les grandes fermes qu'il y avait ici dans la région, par exemple, autour de Quinçon, sur le plateau, les grandes fermes de centaines d'hectares, et là, il y avait vraiment des cultures. Mais après, toutes les cultures, c'est vers le nord que c'était devenu plus rentable. Mais là, c'était très simple. Il y avait quelques amandes. Il y avait un peu d'huile d'olive, il y avait un peu de vigne, mais même les oliviers et les arbres fruitiers poussaient dans la vigne. Donc c'est bien après qu'on a eu le lavandin et la lavande. Donc tout ça, ça faisait une économie vraiment misérable. Il n'y avait que le commerce qui passait là, qui pouvait donner un peu d'économie. Alors d'où le péage de Quinçon, qui était un passage réputé. Et alors là, le péage, comme d'habitude, le péage, quand on dit péage, il y a quelqu'un qui ramasse l'argent du péage, pour parler vulgairement. Et là, ils étaient deux à se disputer. Barjols appartenait au chanoine de Barjols, et le péage appartenait apparemment au Foresta, qui est la grande bastide qui est entre Montmeillon et Quinçon. Et tous les deux se disputaient le péage, et se sont fait des procès sans arrêt. Et ces procès ont été tellement complexes qu'à Aix, ils ont capitulé, ils ont envoyé ça, je crois, à Toulouse ou à Bordeaux. Et finalement, c'est remonté jusqu'au Conseil des finances du roi. Incroyable.
Le roi, c'était Louis XIV.
Et donc, on a le grand texte qu'on peut voir à la mairie de Quinçon, qui est extraordinaire, et qui dit, le roi étant son conseil, ils énoncent tous les procès-créants, et ils ont, et maintenant, voilà le tarif des péages. Et alors, on voit combien il y a des... On paie pour un mulet, pour des poules, pour autre, entre parenthèses, je faisais remarquer à des gens qu'on ne paie pas pour un carrosse ou un chariot, puisqu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de route. Donc, on s'aperçoit là, là, c'est une vérification, et c'est signé de Lavrière, qui était... un de la grande famille, comme Colbert, la famille des Maurepas. Il y avait Maurepas Saint-Florentin et l'autre, comment il s'appelait. Puis ils ont toujours 3-4 noms de famille. C'est signé de Lavrière à Versailles. Alors on est sûrement le seul village de France à avoir, pour un village de 1000 habitants, un texte regroupant le détail de la vie quotidienne, par exemple la façon de faire passer un mouton sur le pont de Quinçon, est signé du temps de Louis XIV.
Et du coup, l'argent, elle est où?
Je crois qu'il a été partagé en deux. Donc, c'était pas la peine de se battre jusqu'en haut, mais il a été partagé en deux. Et ça permettait, d'ailleurs, le péage. J'ai oublié dans tous les passages, il y a quelques artisans, il y a l'école porteur, et puis il y a les routiers, hélas, mais il y a surtout les troupes, les militaires, quand ils allaient se battre au XVIIIe siècle contre les Autrichiens. Ici, il y a le beau-père de Madame de Sévigné, le marquis de Grignan, qui est passé avec des centaines de soldats, des milliers de soldats ici. Au moment des guerres de religion, il y a le maréchal de Retz qui est passé avec 10 000 Allemands et Suisses pour aller à Ries, faire le siège de Ries. Donc, tous ces gens-là, alors comment ils mangeaient? Comment les villages se ruinaient? Ils étaient déjà pas riches, mais quand on fait venir au moment de la peste de 720 le royal Roussillon, 800 hommes de troupes qui vont vivre pendant un an ici pour surveiller le Verdon, ça veut dire que ça ruine tout le monde. Ils sont obligés de faire des emprunts à Aix et payer pendant des années à se ruiner totalement.
Quand tu parles de bande de routiers, ça représente combien de personnes?
La compagnie, ça peut représenter entre 30 et 80 personnes.
Ça paraît peu.
Voilà. Alors, c'est pas énorme. Alors, c'est des gens qui sont à cheval ou même souvent à pied, qui sont des gens qui se battent à pied, qui n'ont pas de canon. Donc, si vous faites un rempart, je vois le rempart de Quinçon, moi, c'est classique, hein. Un rempart, on s'oppose à quelqu'un pour défendre quelque chose, et ça, toujours la contextualisation. Donc, comme les gens n'ont pas de canon, ils n'ont pas d'armes à feu, il suffit de faire un mur de 6 ou 7 mètres de haut pour qu'ils l'escaladent, ou plutôt pour qu'ils ne l'escaladent pas, et puis avoir des belles pierres du Verdon en haut qu'on leur balance gratuitement dès qu'ils ont envie de monter. Et ces gens-là savent faire deux choses, généralement, escalader, échelé, comme disait, ou attaquer par surprise, donc comme ça, ou attaquer les portes. C'est pour ça qu'en fortification, par exemple Quinçon, mais rien, c'est pareil, il n'y a jamais que deux portes. Et là, on va, comme à Castellane, faire pétarder la porte. On va essayer de la brûler en envoyant dans une charrette avec des chariots et autres. Mais comme toutes les portes, il y a des grands manteaux, il y a des herses et autres, ça ne joue pas beaucoup. Donc on essaie, sous un bouclier très fort, qu'on appelle un chat, on essaie d'aller vers la porte, mettre des pétards, et faire sauter tout ça avant de prendre le village.
La littérature à conseiller, pour ce qui concerne en tout cas ce sujet, Jean?
Alors, les livres de base, c'est tous les livres d'Alpes de Lumière, d'ailleurs, quand on parle d'architecture, d'histoire et autres. Alpes de Lumière, c'est à Salagon. Hein, donc, n'importe quel libraire, et notamment la grande librairie Jaubert à Ries, a tous ces ouvrages-là. Donc, l'ouvrage de base, c'est La vie de ceux d'autrefois, les mémoires d'Albert Cotte. Alors, ça, c'est le deuxième. Bon, c'est un peu cher peut-être, mais c'est magnifique, absolument splendide. C'est de Luciette Poncin, la vallée du Verdon avant le lac, aux éditions. C'est-à-dire l'édition de Fort-Calquier, donc qui est remarquable. Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture de nos villages, le livre de Massot, Vie paysanne et maison en Provence, le gros ouvrage. Si on aime l'architecture, une architecture extraordinaire des premiers siècles, c'est l'architecture chrétienne des premiers siècles, hein, qui est un livre qui est sorti à Actes Sud, mais là c'est vraiment très, très particulier pour ceux qui aiment vraiment l'architecture. Il y a les livres de Collier aussi sur l'histoire de la Provence des premiers siècles. Et puis alors là, c'est très particulier, mais c'est absolument génial, parce qu'il y a toute l'histoire avec les cartes et tout. Et c'est l'atlas géographique et historique de Provence.
Donc en conclusion?
En conclusion, c'est que le colporteur, il garde son actualité. Donc j'avais le Covid, on a vu des gens aller de village en village pour aider les gens qui étaient isolés. Mais il y a une autre image auquel on ne pense pas. C'est tous ces camions qui viennent de temps en temps chargés de quincaillerie et qui viennent s'installer sur une place de village ou d'une petite ville et qui amènent de quoi rêver, depuis les échelles, les clés anglaises, les matelas gonflables ou autres. Ben voilà, ça c'est un dernier stade. Et je connais une de mes amies dont le père était colporteur jusque dans les années 40, ce qui me fait souvenir tout d'un coup que dans ma famille véronaise, on vivait dans un village, et je garde le souvenir, encore ça devait être dans les années 45, 47, 48, d'un monsieur qui passait tous les ans pour vendre des produits, des tissus, des torchons et des serviettes. Donc c'est encore un colporteur. Bon, avec un camion cette fois, mais qui venait et qu'on attendait tous les ans, je me souviens, ma famille, rachetait toute une série de ces serviettes, torchons et autres à ce monsieur.